VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Au Nigeria, deuxième jour de dépouillement du scrutin du week-end dernier. Le candidat d'opposition Muhammadu Buhari a une légère avance sur le président Goodluck Jonathan après décompte du vote présidentiel dans la moitié des États du pays. Plusieurs organisations ont déployé des observateurs au Nigeria pendant les élections du week-end. Parmi les délégations présentes sur le terrain, celle du National Democratic Institute des États-Unis, le NDI. Timothée Donangmaya a joint à Abuja le coprésident de cette délégation et directeur pour l'Afrique du NDI, Christopher Fomunio.
Il y a eu quelques ratés, comme le retard dans l'arrivée des agences électorales, le retard dans l'arrivée du matériel électoral. Mais nous avons aussi constaté des améliorations par rapport au scrutin passé. Par exemple, les électeurs étaient très disciplinés, très calmes, très posés en attendant le démarrage du scrutin. Et dans la plupart des États, le jour du scrutin s'est déroulé sans violence, ce qui est quand même un fait remarquable dans un pays qui, par le passé, a connu des violences autour de ces élections.
Voilà, c'était Christopher Fomunio du NDI. La guerre contre Boko Haram maintenant. Des combattants islamistes du groupe nigérian ont mené une incursion lundi dans le sud-est du Niger, mais ont été repoussés par les armées tchadiennes et nigériennes vers le nord-est du Nigeria frontalier. C'est ce que déclare l'AFP, citant une source militaire tchadienne. Au moins 4 véhicules utilisés par les militants de Boko Haram, dont un blindé, auraient été détruits. Niger, toujours, l'extrême sud-est du pays, en particulier la région de Difa, se remet lentement après les incursions de Boko Haram. Des précisions avec Ali Alousseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de Difa, au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall.
Il y a des dégâts incalculables sur le plan économique parce que quand vous prenez la région de Difa, c'est une région phare en matière de poivrons, à 27 milliards de poivrons par an. Et on a 16 milliards de poissons par an qui transitent par la région de Difa. C'est ça la base de notre économie.
Et aujourd'hui, ça n'est où maintenant?
Ça ne marche pas dans la mesure où ces exactions ont fait en sorte que ce commerce est tari. L'État a pris des dispositions au niveau régional pour pouvoir stopper ce commerce-là. Parce qu'il intercepte les populations qui ont les poivrons, les populations qui ont les poissons, pour avoir une manne qui leur permette de faire la guerre. Dès lors qu'on a mis fin à cette situation-là, rien qu'avant-hier, les éléments de Boko Haram qui ont voulu se rendre parce que, effectivement, ils ont été coupés de la source.
Ali Alousseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de Difa au Niger. Guinée, l'opposition appelle à une journée ville morte ce jeudi. Les opposants contestent toujours le calendrier électoral qui prévoit de tenir la présidentielle le 11 octobre prochain avant les élections locales en 2016. On écoute Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne, au micro de Nicolas Pinault.
La journée ville morte que l'opposition guinéenne projette s'inscrit dans un cycle de manifestations que nous avons décidé d'initier suite au refus du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser enfin les élections communales dont les mandats ont expiré depuis plus de 5 ans. Et nous sommes donc dans cette crise politique qui n'en finit pas de perdurer parce que le gouvernement n'est pas ouvert au dialogue. Parce que la CENI et le gouvernement violent systématiquement la Constitution et les lois de la République, l'objectif étant d'organiser une véritable mascarade électorale le 11 octobre prochain pour plébisciter en quelque sorte le président sortant. Ce que nous refusons catégoriquement, nous inscrivons dans la logique d'élections transparentes et crédibles.
Pourquoi finalement ne pas boycotter ces élections présidentielles, puisque le calendrier ne sera pas changé par la CENI?
Nous pensons qu'il est possible de changer le calendrier, parce qu'il est établi par certains commissaires qui sont au sein de la Commission électorale nationale indépendante, qu'il est parfaitement possible, dans l'intervalle du temps qui nous sépare de l'élection présidentielle, c'est-à-dire dans l'intervalle de 7 mois, qu'il est parfaitement possible entre-temps d'organiser les communales avant l'échéance du 11 octobre. Donc nous nous engageons dans ces manifestations pour obliger le gouvernement et la CENI à tenir compte de notre Constitution, qui prévoit des mandats bien définis et qui doivent être renouvelés chaque fois qu'ils arrivent à expiration.
Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Problématique de l'eau potable à Tombouctou, dans le nord du Mali. L'UNICEF a investi 300 millions de francs CFA pour offrir une eau de qualité aux populations de Tombouctou et de ses environs. Le point sur les résultats obtenus avec notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Les 300 millions de francs CFA de l'UNICEF ont permis à certaines installations de la SOMAGEP et de l'hydraulique de se mettre sur pied, avec comme objectif faciliter l'accès des populations à l'eau potable à Tombouctou. Dans la périphérie de la cité de 333 Saints, plus précisément à Kabara, un vieux château de 22 ans a été refait grâce à l'appui de l'UNICEF. Cela pour le bonheur des habitants de cette localité.
C'est de l'eau filtrée. Il y a deux sortes de filtres. Il y a un filtre là en coton, ça y est avec ma main, l'autre là c'est en charbon. C'est le charbon là qu'on met en drier pour très bien filtrer l'eau. Et puis le coton là, on met ça devant.
On est dans une zone qui est vraiment en nécessité de cette eau-là. L'eau qui sort directement de l'eau robinet est une eau qui a besoin d'être traitée.
Issa Sogoré, membre du comité de gestion de l'eau potable de Kabara.
Avant l'arrivée de l'UNICEF, on puisait de l'eau dans des puits. Mais depuis l'arrivée de l'UNICEF, c'est à travers ses efforts qu'on a cette château. 11 bonnes fontaines.
Au niveau du centre de santé de Toya, les agents de santé apprécient l'installation des bornes fontaines. Aminata Doumbia, directrice du CESCOM de Toya.
Chaque année, il y a l'eau pour le lavage des mains. Et puis au niveau de la salle de maternité, il y a l'eau pour les femmes enceintes et pour les femmes en travail aussi. Même au moment de l'accouchement, il y a l'eau potable dans la maternité.
Il a fallu le concours des agents de la direction de l'hydraulique de Tombouctou pour faciliter l'installation des bornes fontaines et la réhabilitation de certains châteaux d'eau. Kassim Traoré, des retours de Tombouctou, VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, en RDC, les défenseurs des droits de l'homme soutiennent la campagne menée par Amnesty International pour la libération d'une trentaine de jeunes Congolais militants pro-démocratie détenus depuis le 15 mars. Des précisions avec le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba, joint à Kinshasa par Eddy Issango.
C'est une action que nous saluons énormément parce qu'elle vient s'ajouter à toutes les autres actions que nous avons menées depuis que ces activistes pro-démocratie ont été arrêtés et sont détenus au secret par des services de renseignement ANR sans possibilité de recevoir la visite familiale ni l'assistance de leurs avocats. Ce que nous considérons comme une violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens et puis nous fustigeons le fait que ce service est publiquement encouragé par le gouvernement à travers son porte-parole et qui ne cesse de tenter à démontrer que c'est une détention régulière.
Les gouvernements les accusent de préparer une insurrection contre les pouvoirs en place. Est-ce que vous pensez que c'est fondé, ces accusations du gouvernement?
Non, c'est fantaisiste, sans aucun fondement. Vous savez, c'est du n'importe quoi.
Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, au micro d'Eddy Issango. L'actualité hors d'Afrique, nouvel avertissement du président turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran. La Turquie ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. Affirmation qui signale un net rapprochement entre Ankara et l'Arabie saoudite qui attaque en ce moment les rebelles chiites houthis du Yémen soutenus par Téhéran. C'est du moins ce que disent beaucoup d'observateurs. Michel Joseph.
Hier, le chef de l'État turc a sommé ceux qui s'ingèrent dans les affaires internes du Yémen de s'en retirer. Jeudi dernier déjà, Recep Tayyip Erdogan avait accusé l'Iran d'avoir déployé des troupes au Yémen, avertissant qu'Ankara ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. De l'avis des observateurs, la fermeté du nouveau roi saoudien Abdallah dans son soutien aux rebelles syriens et ses efforts pour contrer l'influence régionale de l'Iran ne sont pas étrangères à ce rapprochement entre Riyad et Ankara. Du reste, le parti AK d'Erdogan est en obédience islamiste sunnite. Pas étonnant qu'Ankara voit de plus en plus la région à travers le prisme de la division chiite sunnite, soulignent les experts.
Au Yémen, nouveau raid aérien de la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites, houthis et leurs alliés dans la nuit de lundi à mardi. Et puis pour parler sur le nucléaire iranien à Lausanne en Suisse, les négociateurs de l'Iran et des pays du P5+1, qui comprennent notamment les États-Unis, n'ont plus que quelques heures pour conclure un accord cadre avant l'expiration du délai fixé. Ce soir à minuit, le secrétaire d'État américain John Kerry dit qu'il reste encore beaucoup de problèmes difficiles à résoudre. Et pour terminer, le président Barack Obama se rendra en juillet au Kenya, terre natale de son père, pour sa première visite dans ce pays depuis son arrivée à la Maison Blanche en 2009. C'est ce qu'a annoncé l'exécutif américain. Ce sera le quatrième voyage en Afrique subsaharienne du président Obama depuis son accession à la présidence. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info